t'auras un grand frère pas trop loin.
It's time!
Leur CV avec Pascal CV.
De retour à l'émission, je vous avais dit qu'on allait lui parler, en fait, d'entrée de jeu. C'était pas mal notre sujet. Puis ça a été le sujet de la semaine aussi, à part le rififi là, à l'hôtel de Ville de Québec. Puis ça aussi, on en jasera. Mais ce qui fait la une depuis plusieurs semaines, plusieurs mois déjà, c'est la hausse de criminalité sur le territoire de la capitale nationale, au Québec en général, parce que là, on a vu des débordements un peu partout. Mais assurément, le crime organisé qui change un peu de protocole. Je dis ça parce que on ne voit plus la violence comme elle était, puis finalement, on la revoit au grand jour dans notre quotidien. Pour essayer de comprendre un peu là, ce qui se passe, puis les changements de paradigme au sein de ce crime organisé-là, qui se découpe en plusieurs gangs, finalement, en plusieurs familles, si je peux me prononcer ainsi, on s'en va rejoindre au téléphone Maria Mourani, présidente de Mourani Criminologie, parce qu'elle est criminologue. Bonjour, Madame Mourani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue parce que je crois que, bon, ça fait des années que vous travaillez dans ce secteur-là, disons le secteur d'activité et de la criminalité. Vous suivez ces groupes-là depuis plusieurs années. Vous avez certainement regardé un peu les articles de journaux, entre autres ceux du Bureau d'enquête de Québécois dans les dernières semaines. D'abord et avant tout, je vais vous poser une question très, très large. Quel est votre commentaire par rapport à ça?
Ben écoutez, il faut savoir que depuis la mort de Vito Rizzuto, donc quand même ça fait un petit bout maintenant qu'on a une certaine instabilité dans l'écosystème criminel du Québec. Autant dans le Grand Montréal que dans la ville de Québec. Malgré que quand même la ville de Québec était relativement stable, c'était davantage Montréal qui était en effervescence. Il faut savoir que nous au Québec, on était habitués à une certaine, disons à une certaine paix, parce que pendant longtemps, l'écosystème était contrôlé par trois grands joueurs. D'un côté, excusez-moi, d'un côté le clan sicilien, les Hells Angels, et certains groupes des gangs de rue majeurs qui contrôlaient la rue.
OK, le groupe sicilien, là, c'est la mafia. Donc, admettons qu'on y va avec un terme que tout le monde peut comprendre. Là. C'est vraiment
pas de problème.
Ces trois grandes familles-là, majoritairement Hells Angels et la mafia, c'est bien ça?
Hells Angels, mafia et certains gangs de rue qui étaient, je dirais, dirigés par des vétérans. Donc, ils avaient le respect de la rue. Et puis, bon, ils contrôlaient, comme par exemple le groupe Syndicate, qui est composé de vétérans de gangs, que ce soit les grandes familles des Crips ou des Bloods. Donc, il y avait comme une espèce d'entente. Tout le monde, comme on dit, tout le monde mangeait au râtelier. Tout le monde faisait de l'argent. Ils s'entraidaient. Ils calmaient les conflits, etc. Donc, à partir du moment où il y a eu la guerre dans la mafia italienne, c'est-à-dire entre les Siciliens et les Calabrais, et par après, il y a eu le décès de Vito Rizzuto. Donc, au fond, il n'a pas pu reprendre le contrôle vu qu'il est décédé. Ben là, ça a été un petit peu le chaos qui a commencé. Autant à l'intérieur des clans mafieux que dans les gangs de rue. Et ça s'est empiré autour... En fait, ça a commencé à s'empirer autour de 2019.
Pourquoi? Parce que Rizzuto était vraiment le leader en chef de toutes ces familles-là. Il s'était le plus respecté ou...?
C'était pas un chef. C'était un bon négociateur.
OK.
Donc, au fond, c'était quelqu'un qui était capable de faire en sorte qu'il n'y ait pas de chicane, que tout... Et puis, d'ailleurs, les Hells ne voulaient pas de chicane, hein, parce que ils ont connu Opération 2001, là, puis ils ont connu le fort temps qu'ils ont passé en dedans, ils ont vu comment... Parce qu'à un moment donné, il faut le savoir, les Hells, ils étaient carrément éradiqués au Québec, là, hein, soit morts, soit en dedans. Puis c'est les Hells de l'Ontario qui ont aidé les Hells à revenir là au Québec, là. C'est-à-dire quand les gars sont sortis, à remonter les chapitres et tout. Donc, les Hells, ils savent que c'était pas très bon la guerre des motards pour eux autres. Donc, ils ont changé leur façon de faire. Ils sont rentrés beaucoup dans le blanchiment d'argent, dans le commerce légal, c'est-à-dire vraiment le blanchiment, gros trafic de stupéfiants, mais on n'est pas en avant des assassinats, on utilise des soldats, on utilise les gars de gang pour faire du nettoyage, on utilise nos clubs-écoles. Donc, ils ont nos relations motards, etc. Donc, au fond, il y a eu cet équilibre-là. Puis, depuis 2019, on a vu qu'il y a des gars à Montréal qui se sont fait éliminer, qui font partie de ceux qu'on appelle la grande famille des Bloods. Puis, mais il faut savoir que les Bloods n'ont jamais, jamais aimé travailler pour les motards. Jamais.
Ça, c'est une gang de rue, là. Oui.
Ouais. Ouais, ils n'ont jamais aimé. C'était comme si, c'est comme on dit, je suis pognée à le faire. Mais, et moi, je me souviens, dans les années 2000, là, début 2000, là, déjà, les gars, là, ils me disaient, un jour, tu verras, Maria, on ne travaillera plus pour eux, puis c'est nous qui allons contrôler les territoires, puis ils ne pourront plus, nous diriger. Là. La taupe, là, nous-mêmes, on va savoir où aller l'acheter. On ne sera même plus obligé d'acheter avec eux.
OK, il y avait déjà donc, cette ambition-là, ben, pour utiliser le mot ambition. Là.
Tout à fait, tout à fait. Puis moi, je vous dis, c'est une haine viscérale hein, qu'ils ont envers les Hells.
Pourquoi?
Et bon, la mafia italienne, ils avaient quand même un certain respect parce que c'est toute l'image de la mafia, là, le parrain. C'est quand on les écoute parler, ouais, moi je vais devenir le parrain.
Ouais,
ils ont cette espèce de pensée imaginaire, là, un peu belle du mafioso. Donc, c'était pas pareil la manière de voir les alliances, là, c'est-à-dire entre les Hells et la mafia. Bon, il y a eu l'élimination de plusieurs vétérans des Bloods. Autour de 2019, là, il y a eu une accélération. Et puis ceux qu'on pensait ou que dans la rue, ils soupçonnaient que c'était syndicate, c'est-à-dire les hommes de main des Hells Angels. Donc déjà ça fait une crotte sur le cœur. Donc là, ce qu'on voit actuellement dans la ville de Québec, mais aussi à Montréal un petit peu, on le voit à Montréal, mais différemment, c'est une espèce de, je dirais, de rébellion de la grande famille des Bloods, OK, contre les Hells. On parle de trafiquants indépendants aussi, parce qu'ils sont mobilisés par, c'est-à-dire l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est une alliance qu'ils font avec différents indépendants qui veulent plus travailler ou payer leur 10% aux Hells. Mm-hmm. Mais vous avez aussi, par exemple, le groupe de Québec, là, de Picturemel, là, ben, ils sont liés aux Profit Boys là, de Montréal. Là. Donc, par exemple, le gars qui a été enlevé au Saguenay,
Saguenay
puis,
oui.
puis qui a été séquestré et retrouvé à Montréal, ben, c'est des gars de Montréal qu'on
moi, okay, eux convaincu. Ont des alliés, là. C'est, contrairement aux Hells Angels. Okay.
Ben, non, mais attention, les Hells Angels, ils ont des alliés aussi. Hein.
Mais parlons-en plus tard de ça, parce qu'il y a quand même quelque chose de particulier qui se voit, soit une peur au sein de différents regroupements dans différentes villes d'intervenir pour aider Québec, mais on en parlera un petit peu plus tard. Continuons avec la gang de rue de Picturemel. Là, ce que vous dites, Maria Mourani, c'est qu'il y a de l'entraide entre gangs de rue. Là.
Bien sûr. Puis même, je vous dirais, l'année dernière déjà, j'avais des sources qui me disaient que des gars de Montréal étaient à Pissy. Et ils travaillaient, entre guillemets, ils faisaient la guerre à Pissy. Il y a eu des fusillades, des arrestations policières. C'était des gars de Montréal qui ont été arrêtés. Et le message que moi j'ai reçu, c'est que ces gars-là, ils avaient été invités par un gang assez intéressant de Pissy. Qu'on appelle, et c'est pas le même Wolfpack de Québec, là, attention, ils s'appellent les Wolfpack Alliance. Et les Wolfpack Alliance, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un groupe qui allie hein, plusieurs membres de différents gangs, même des gangs autochtones, des Hells. Ils allient plusieurs membres, mais ces membres-là sont tous des membres frustrés de leur propre groupe. Par exemple, ils vont recruter des Indian Soldiers qui sont qui est un gang autochtone bien connu à BC, puis même à Calgary, il y en a. Donc, ils vont recruter ceux qui sont plus contents d'être avec les Indian Soldiers. Ils ont même des membres de Hells qui sont frustrés de rester dans les Hells. Et ce qu'on constate dans ce groupe, ce sont des milléniaux. Alors, ils fonctionnent sur Internet. C'est-à-dire, les gars de Montréal sont en contact avec les gars de Toronto et de BC juste avec leur téléphone cellulaire.
Mais on recrute quoi? Des jeunes peut-être qui ont eu moins de chance dans l'encadrement familial, des jeunes qui cherchent un sentiment peut-être de justement d'avoir une certaine famille, ils ont besoin de repousser leurs limites. Les milléniaux recrutés par les gangs de rue, qui sont-ils?
Bien, vous avez différents types de jeunes, de pourquoi un jeune rentre dans un gang. Mais dans ces gangs-là, où on a des jeunes qui sont dans début vingtaine, là, 22, 23, 24, là, le premier élément qui fait qu'ils se mettent ensemble, c'est le pognon, l'argent, business, faire du gros trafic de drogue, faire du trafic humain, prostitution, trafic d'armes. C'est pas les petits jeunes 14, 15, 16 ans là qui veulent se trouver une famille puis qui rentrent dans le gang puis qui veulent avoir la protection puis que ils veulent flasher sur la rue, tu sais, ils veulent avoir l'air cool, ils veulent non, là on est dans du business là. Business criminel, c'est des gros joueurs. Mmh. C'est du 70 kilos de cocaïne, là. OK? C'est pas. Moi, d'ailleurs, on les appelle gang de rue parce qu'ils ont une sous-culture gang, là, avec des tatouages et tout ce que vous voulez. Mais pour moi, là, c'est carrément du crime organisé.
C'est une organisation.
Ils ont des liens avec les cartels mexicains, ils ont des liens avec la Colombie. Et écoutez, ils ont des liens à travers le Canada. Donc, cette alliance-là, son chef, son leader, là, qui s'appelle Rabir Al-Khalil, OK? Lui, il a été arrêté dans l'opération Locas ici chez nous, OK? Il a, je pense que c'était autour de 70 kilos de cocaïne, si ma mémoire est bonne, là, qui transitait avec sa gang. Ils ont fait des meurtres, tout ce que vous voulez. Ben, ce gars-là, il s'est échappé de prison. Puis on ne sait plus où il est. Il est recherché par Interpol. Alors, vous pensez qu'il ne continue pas à jouer au marionnettiste, lui?
Ouais, non, il est encore bien présent.
Enfin, donc, on n'est pas, on n'est pas dans le petit gang de rue, là. Petit jeune qui niaise, là. Non, on est dans un autre niveau, ce qu'on appelle les gangs majeurs. C'est des hommes plus adultes. Ils roulent vraiment de la coke. Ils sont dans le pot, dans le trafic humain, dans le trafic d'armes. On est à un autre niveau.
C'est pour ça peut-être qu'ils ont réussi à prendre autant de pouvoir, là, ces gangs de rue-là, finalement, très organisés. C'est peut-être ce qui explique comment ils ont réussi à prendre autant de pouvoir face aux Hells Angels Mafia dans les dernières années?
Bien, en fait, ils essayent. Moi, je vous dis, ils n'ont pas encore pris le contrôle. Ils essayent d'abord de s'autonomiser, hein, de se libérer. Là, actuellement, on est dans un processus de libération de ces gangs majeurs-là, qui, elles, contrôlent les petites gangs du terrain, donc vraiment les petits revendeurs dans leur territoire et tout. Et au fond, actuellement, si les Hells ne reprennent pas le contrôle, ben là, on pourra dire qu'eux vont tenter de prendre le contrôle. Mais pour l'instant, on est dans la phase de libération. On va voir qu'est-ce qui va se passer.
Et est-ce que vous pensez que ça sera violent, la suite?
La suite va être violente, bien sûr. Parce que ce soit à Québec ou dans le Grand Montréal, il y a plusieurs leaders actuels qui ont la tête mise à prix, là. Par exemple, Gregory Willie, qui est parmi les icônes, hein, dans la rue, là, c'est comme le gars qui a réussi dans le crime, là. Comme ça qu'il était perçu, hein. Il se faisait peur, etc. Donc, ce gars-là qui a été descendu. Ensuite de ça, on a Brandon Jean Célestin qui a été descendu. Mais on a des gars comme tous les gars qui étaient autour de Syndicate et qui étaient des clans qui travaillaient avec Syndicate, ils sont en train de se faire éliminer.
Ouais,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est dans non seulement dans le mode de le processus de libération, mais en plus de ça, on élimine les joueurs les plus forts pour qu'on va prendre leur place.
Ouais. Un genre de grand ménage humain, là, c'est triste à dire, là, c'est assez tragique, là, mais
Pardon, j'ai pas compris.
Un genre de grand ménage humain, là, triste à dire comme ça, mais c'est un peu ce qu'on constate.
Ouais.
Par rapport à Dave Picturmel, dont on parle énormément en ce moment dans les mm-hmm. médias, bon, il y a Interpol sur son dos, on essaie de traquer ce qu'on dit le caïd en exil. Mm-hmm. Il serait en Europe peut-être en ce moment. Et comment est-ce qu'on voit un genre de chef de gang comme ça qui s'en va se protéger à l'extérieur du pays en laissant ses troupes sur le territoire? Est-ce que ça peut être mal vu par sa gang?
Non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez des gars qui sont en prison et puis ils gèrent leur gang à partir de la prison. C'est comme s'ils seraient, en train de se... C'est comme si... C'est pas nouveau, c'est-à-dire... Vous allez avoir certains gars qui soit sont en prison, soit à l'étranger, puis ils continuent à gérer. Non, c'est correct, c'est bien compris. Au contraire, c'est vu comme wise
okay.
De faire ça. Donc, non, il n'y a pas vraiment d'impact. Par contre, la question que moi je me pose encore et que je suis en train d'analyser, je n'ai pas encore la réponse, c'est que des gars comme Picturmel, là, qui se rebellent, puis que les gars des profits qui se rebellent, tout ça, là, ben, ils sont quand même pas... c'est-à-dire, il y a quand même une stratégie minimale derrière ça, parce que quand un petit poisson se rebelle contre un requin, mm-hmm. c'est qu'il y a une baleine derrière. C'est qu'il sent que potentiellement, il peut se permettre de faire des affaires, ou carrément, il est dans un mode un petit peu ce qu'on appelle low cost, là. C'est-à-dire qu'ils sont dans un mode un peu crazy où ils se disent on s'en fout, ça passe ou ça casse. Donc, c'est soit je suis dans un mode ça passe ou ça casse, soit j'ai un gros joueur derrière moi qui me dit oh ouais, vas-y.
Fais-le, fais-le. Back. Ouais, OK.
Ouais, on te back. Alors, la grande question que je me pose, mais auquel je n'ai pas encore la réponse, c'est qui est le gros joueur qui joue au marionnettiste? Ça, je ne sais pas encore. Je suis en train de réfléchir encore à ça.
Okay. Peut-être en terminant, Maria Mourani, vous êtes criminologue. Il y a une question que je me pose depuis longtemps. C'est le changement de dynamique sociale permettez-moi de dire la morale et l'éthique, là, bien entre parenthèses, dans mm-hmm. l'encadrement au cours des dernières années au sein de ce crime organisé-là. Maintenant, ça pète de partout. On sent que oui, ça peut être organisé, mais il n'y a plus vraiment de scrupules à la manière dont on s'y prend. Peut-être un moins bon respect de certains règlements qui avaient été préétablis. Non-respect de la hiérarchie, ça, c'est sûr. Quand on dit les ennemis des ennemis sont mes amis, finalement, ben ça va peut-être promettre un bon... comme dirait un auditeur, un bon backstab dans l'avenir. C'est un peu le free-for-all peut-être organisé. Le changement de paradigme dans tout ça, il vient d'où? Est-ce qu'on peut faire un pan avec notre société civile, si on veut, avec certaines choses qui se sont perdues à travers le temps?
Bien, c'est intéressant, votre question. C'est aussi ça que j'analyse. C'est-à-dire, moi, ce que je constate, c'est que les façons de faire ne sont plus forcément comme avant. Par exemple, les tortures, OK? On voyait pas ça dans les gangs de rue, la torture, là. Chez nous, au Québec, OK?
La torture comme le doigt coupé, l'orteil coupé.
Ouais, c'est ça. Parce qu'on voyait pas ça. Bon, quand ils vont se filmer, d'abord, le fait de se filmer, c'est arrivé justement avec les nouvelles générations. Avant, ils ne se filmaient pas forcément de cette manière, en s'exposant avec des armes et tout. Ça, c'est vraiment la nouvelle génération. On s'expose avec des armes, on montre l'argent, on montre la drogue, on montre des filles à moitié nues. Tout ça, c'est les façons de faire. On s'expose sur les réseaux sociaux, on fait du scoring sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est la nouvelle génération. L'autre chose aussi, c'est le non-respect, pas de la hiérarchie, mais de l'histoire. Des groupes avec qui on fait affaire. C'est-à-dire, bon, y a comme un certain respect. D'ailleurs, les anciens le disent sur le terrain, ils disent les jeunes, ils n'ont plus de respect. Les jeunes criminels n'ont plus de respect pour les plus âgés, disons. Donc, ils se sentent un peu dépassés par cette génération, la génération des milléniaux, en fait, aussi, qui leur disent, on n'en a absolument rien à faire de vous.
On est meilleur que vous, peut-être, ouais.
Tout ça fait de vos codes, de vos règles, même de votre ce que moi j'appelle le capital symbolique. Ça, c'est très important dans l'écosystème criminel. C'est que tu as un capital symbolique qui dit qu'au fond, tu es le plus fort, tu es le plus dangereux, tu es celui qui a le plus de contacts. Puis si on veut de la dope, c'est toi qu'on va voir. On rigole pas avec toi. Ça, là, c'est plus important même que l'argent. Parce que ça t'apporte l'argent et ça t'apporte la protection. Mm-hmm. Donc, au fond, tu n'es pas obligé de te battre parce que tout le monde a peur de toi. La dissuasion, c'est la chose la plus importante dans n'importe quoi dans la vie, au fond. Alors, ce capital symbolique-là, que des groupes comme les Hells Angels ont accumulé depuis des années, ben, il s'en va en vélo, là. C'est oublié. Ces jeunes-là, ils leur disent, ben, on n'a pas peur de vous, on s'en fout de vous, on ne vous paye plus de cotes, faites ce que vous voulez, puis on va vous couper on va tout faire pour buster vos drogues. Et puis quand on va kidnapper, séquestrer vos hommes de main, puis on va les torturer. Ouf. Et on va faire comme on voit chez les cartels en Amérique latine, ou même les gangs de rue d'Amérique centrale comme les MS-13 ou les 18. Ben c'est ça qu'ils font là, c'est leur technique de guérilla pour faire peur à l'ennemi, pour pas qu'il combatte, pour faire fuir les soldats de leur rang. Alors, c'est une nouvelle façon de faire. Vous mettez aussi l'Internet, le dark web, les réseaux sociaux. Ça, on est actuellement en pleine mutation des groupes criminels, particulièrement les gangs de rue. Une espèce de, que je dirais, non seulement une libération, mais aussi une imposition des nouvelles façons de faire qui sont leurs propres règles du jeu. Et là, on a les plus vieux, là, que ce soit le clan sicilien, que ce soit les motards, qui sont complètement
dépassés
par ces jeunes-là, là, qu'ils n'arrivent pas à contrôler.
Et qui n'ont peut-être pas non plus toutes les capacités Internet que les milléniaux ont. Un peu au regard de la société actuelle, quand ton parent te demande comment mettre une pièce jointe dans un courriel puis que toi, ça te paraît vraiment futile. Il y a beaucoup de parallèles comme ça qu'on peut faire entre société civile et
crime organisé. C'est drôle parce que quand je les vois... Ben drôle, c'est intéressant dans le sens que quand j'analyse, par exemple, le Wolfpack Alliance, je me dis, waouh, ils sont vraiment comme nos jeunes, là. C'est vraiment comme nos jeunes, sauf côté criminel.
Un peu inquiétant quand même, parce que s'il n'y a pas de structure, puis tout le monde joue avec son ego, son orgueil, puis tout... C'est comme dans une entreprise, quand tout le monde veut être le boss, mais il y en a un boss, puis tout le monde pousse pour... C'est quand même très inquiétant, on parlait de violence possible. Maria Mourani, toujours extrêmement intéressant de vous parler. On se promet de vous recontacter dans les prochains jours.
Avec grand plaisir. Malheureusement, ça ne va pas s'arrêter.
Non, c'est ça. Enfin, malheureusement, on va avoir à se reparler. Mais malheureusement, heureusement.
Oui, dans ce sens-là. À moins que les policiers, je sais qu'ils sont en train de faire des opérations policières assez musclées actuellement, là, aujourd'hui. Là. Donc, s'ils arrivent à faire comme on a fait à Montréal l'été dernier, là, on avait dit l'été va être chaud. Puis bon... Fadi Daguerre
le chef de police de la police de Montréal.
Va être chaud, là. Ouais. Faut vraiment buster, hein. Faut vraiment attaquer les sujets d'intérêt pour les empêcher de passer à l'acte. Donc, si les policiers de Québec font de même, de deux côtés, hein, autant les gars de Pic Turmaine que des Hells Angels, ça va peut-être se calmer, mais faut vraiment agir, là.
Il faut agir immédiatement. Merci beaucoup, Maria Mourani, criminologue et présidente de Mourani Criminologie. Vous pouvez toujours aller voir sur son site web. Très étoffé et intéressant. Merci encore.
Grand plaisir.
Une belle journée. Bon vendredi. Oui, parce que c'est effectivement, selon les informations de certains médias, il y a des enquêteurs de la SQ et de corps municipaux qui sont sur le territoire aujourd'hui pour envoyer un message aux criminels. On est à Québec, on est en Beauce, on est au Saguenay depuis quelques mois, mais là, aujourd'hui, importante opération policière de visibilité, entre autres, visite dans les bars. On veut passer un message dans ce conflit qui fait rage entre gangs de rue, la gang de Dave Picturmel. Vous l'entendez beaucoup, là, ce nom-là. dans les derniers jours. Il a 27 ans, lui. Puis il s'est sauvé du côté de l'Europe. On pense qu'il est actuellement au Portugal, mais capable de gérer ses opérations à distance. C'est un gars qui n'a pas vraiment de scrupules puis qui est prêt à aller très, très loin avec, avec ses hommes pour justement éradiquer ou du moins prendre le contrôle de ce qui se passe dans tout ce qui est trafic de stupéfiants, de drogue et être indépendant et au-dessus des Hells Angels. Donc, Sûreté du Québec, la police des municipalités aussi sur les territoires. Vous allez les voir des fois en bord des rues, là, mais on va tenter de mettre un frein au conflit entre les Hells Angels et les trafiquants de drogue indépendants. C'est une vraie guerre des stupéfiants à Québec et malheureusement, ça semble être le tout début. Merci d'être dans l'heure CV. Mon nom est Pascal. On revient dans un instant.
Pour les débuts de soirée,